Micro ouvert.
Dans la classe où tout est tranquille, les élèves ont déserté et rejoignent devant la grille les enseignants pour faire un piquet. Mais sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes n'ont pas envie et regardent par le carreau ces gens qui luttent pour conserver leurs acquis. Ainsi certains jours paraît une grève à nos yeux, mais nous ne voulons jamais risquer un mal pour un mieux. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils d'un sommeil précautionneux. Sur la place vibrante d'air chaud atterrissent quelques martiens, suivis de près par d'autres vaisseaux. On est nombreux, ça fait du bien. Ni dangereuse, ni zinzin, la foule éveillée avance pour l'avenir du bien commun. Pour l'avenir du bien commun, elle improvise la résistance. Ainsi certains jours unis contre des bourgeois trop gras, on n'en peut plus du mépris de ceux qui servent le patronat. Nous les regardons dans les yeux et nos enfants dans nos bras, nous exigeons qu'ils fassent mieux. Leur avenir, on n'en veut pas. Sur la place, les profs hurlent encore, et ça va pas s'arrêter. Les Martiens, de plus en plus forts, n'ont pas prévu de redécoller. Redécolérer. Grève générale demain.
C'était la trouvaille de la semaine, ce qu'on vient d'entendre, et donc ça se nomme Ava Carrère. J'allais dire Jacques, mais c'est Pierre.
C'est mon deuxième.
Jacques, Pierre. Ah non, ça m'étonne. Mais non, mais toi, les Pierre, les Jacques, les Henri, les. Hein?
Non, c'est Pierre, Jacques, Joseph. Enchanté.
Oui, enchanté, Pierre. Pierre Lorquet, on est ici chez toi.
On est chez moi.
Voilà.
Ici à Saint-Jos.
Et on se rencontre pour ton bouquin. Alors, j'ai lu qu'il y en avait d'autres, hein. C'est pas ton premier.
Alors, c'est mon premier roman à moi tout seul. J'en ai écrit deux il y a quelques années avec Luc Malguem. Donc j'ai écrit deux romans à quatre mains. Et puis là, c'est mon premier à moi tout seul.
Il y en avait un que j'aimais bien, le titre. C'est quoi les titres des bouquins?
Alors le premier, c'était le Journal du chômeur.
Voilà, je trouve ça pas mal.
C'était au siècle dernier, à l'époque où... Le chômage était bizarrement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chômeurs, hein, mais dans la littérature, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de chômeurs dans la littérature, en tout cas dans la littérature littéraire, quoi. Et ça a surpris, nous ça nous a surpris que ça surprenait, mais...
Pourquoi, à ton avis?
Peut-être parce qu'il y avait encore un fantasme... dans la littérature qu'on parle de gens d'un milieu classe moyenne aisé et que oui, où il y avait de la littérature prolétarienne, mais je sais pas, le chômeur n'existait pas. Comme là je fais une spécialité dans le non-travail et dans le problème de travail, vu que là maintenant mon point de départ c'était le burn-out.
Attends, parce que là, oui, là, on te, on te, on te, On se rend compte pour le livre ici, faire et faire semblant.
Voilà.
Voilà. Et là, c'est ça le sujet, le burn-out.
C'est le sujet, le point de départ. Et le point de départ du sujet, bon, qui est quand même, on pourra le deviner, assez autobiographique. Mais c'est surtout que on en parle beaucoup et on donne pas beaucoup la parole aux personnes qui le vivent. On parle beaucoup des conséquences du burn-out. Écoute, c'est pour la sécurité sociale. On traque les mutuelles. On dit que les malades sont pas malades. Mais là, pourquoi les gens tombent malades? Pourquoi s'il y a des centaines de milliers de personnes qui tout d'un coup tombent comme des mouches? Non seulement on se pose pas beaucoup la question, et surtout quand on en parle, on ne donne pas la parole aux personnes qui le vivent de l'intérieur. Et les personnes qui le vivent de l'intérieur ont beaucoup, beaucoup de mal à raconter ce qui leur arrive. C'est très compliqué de parler même à, je sais pas, son amoureux ou son amoureuse, même à ses enfants, ses parents. C'est très, très, très compliqué, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais. C'est quoi un burn-out?
Mais est-ce qu'on mettrait pas un autre mot, parce qu'on l'entend souvent, ce mot-là,
ce mot-là.
Tu vois, ça veut dire quoi exactement,
quoi? En plus, oui, c'est marrant parce que là, avec mes amis du collectif Un chat, un chat, on a lancé un groupe de parole de gens et un projet qui s'appelle « Est-ce que ça brûle ?» Parce que oui, déjà, le mot « burn-out », on ne se l'approprie pas, généralement, c'est pas, ça ne brûle pas.
Je me perds un peu, est-ce que ça brûle? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, « burn-out », l'idée, le mot « burn », c'est une combustion, quoi.
Ok, ok. Non, mais moi, je connais rien. Je parle baragouine en anglais, tu vois. Donc, déjà, oui.
Burn, c'est brûler, quoi.
Ok.
Et donc, c'est les gens qui se consument. Mais c'est pas l'effet que ça fait.
Peut-être toi, c'est pas. Oui, voilà, peut-être d'autres.
Peut-être que d'autres. Mais en tout cas, un point commun, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires. C'est un truc qui se fait en plusieurs temps, quoi. D'abord, on se dit, ok, j'ai besoin. Je dois m'arrêter, j'en peux plus, j'ai besoin. Mais ça va prendre une semaine, 15 jours, quoi.
T'as besoin de t'arrêter, quoi.
Voilà, il faut que j'arrête, je peux plus voir mes collègues. Dès que j'arrive au boulot, ça va pas, je sens que ça va pas.
Alors qu'il faut le dire, ça allait bien, t'aimais bien ton travail, tu t'y retrouvais bien, parce que c'est pas tout le monde comme ça. Je veux dire, il y a des gens, ils font en plus un burn-out. Mais ils étaient déjà pas bien, c'est pas le boulot idéal, ils galèrent, tu vois, toi c'est pas le cas, quoi.
Mais souvent on associe le burn-out, et là par contre c'est quand même un peu vrai, mais en même temps c'est pas plus facile à expliquer, à une perte de sens. C'est quand même souvent des gens qu'on dit un peu trop investis, qui mettent pas bien les limites, qui se laissent bouffer et qui se prennent un contre-coup, soit par déception, soit par conflit, soit par excès de pression.
Mais qui dit ça? Parce que ce que tu dis là, et ce que j'ai retrouvé dans ton livre aussi, cette phrase de dire ceux qui font un burn-out, c'est souvent des gens impliqués, qui... moi, ça m'énerve d'entendre ça, parce que tu vois, je te l'entends dans le bouquin, je l'ai déjà vu passer dans des articles, alors on répète comme ça des choses toutes faites, mais bref.
Ouais, c'est une hypothèse, effectivement, qui circule.
Mais quelle importance, non?
Ouais, puis de toute façon, on sait pas, je veux dire, est-ce que... Et c'est ça qui rend aussi les choses difficiles à expliquer, parce que même si tu dis, j'avais un boulot qui avait plein de sens, et puis tout d'un coup, il n'en a plus,
j'avais un boulot qui avait pas de sens et là c'est encore pire, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y a tous les, j'imagine que tous les cas de figure, enfin voilà. Mais avançons dans notre.
Ouais. Parfois c'est effectivement marre de tout d'un coup. Enfin moi j'étais dans un boulot précédent, je travaillais dans un service commercial et j'en ai eu marre de traiter avec des sociétés de recouvrement et des gens surendettés et d'avoir ce côté extrêmement méprisant du commerce. Et puis oui, ça, je me suis sauvé, quoi.
Mais donc, t'allais dire quoi, en fait, en parlant de ça? Est-ce que t'étais parti sur toutes tes...
Toujours que c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et alors que c'est quelque chose qu'on sait qu'il y a des, il y a des centaines de milliers de personnes, d'ailleurs on en parle beaucoup avec une certaine pression, qu'il n'y avait pas vraiment, quand j'ai commencé, c'était encore plus tranquille. Quoi. Généralement, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans les milieux médicaux, psy, etc., sont des gens gentils, qui te disent « prends le temps ». Repose-toi, ça va se passer, ça va durer.
Ceux qui soignent, ça, ouais, c'est ça.
Mais sans, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Personne sait exactement ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que ça prend du temps. Ça prend plus de temps que la personne elle-même le pense. Donc nous, on se dit, ouais, dans 15 jours, je m'y remets, quoi. Puis bon, allez, le mois prochain, c'est fini. Et quand la personne dit, oui, on va faire des certificats, un mois après un mois, puis après, il n'y aura pas d'après, quoi. Et puis, c'est comme s'il y avait un bras de fer qu'il fallait perdre, accepter d'être... OK, d'accord.
Écoute, t'as été difficile à accepter ça?
Ouais, parce que parce qu'on se retrouve catalogué malade. Parce que c'est aussi une situation où le fait d'être déclaré malade, soigne-toi, on se retrouve tout seul, en fait. Isolé, sans droit à la parole, sans droit à la justification de qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, d'un point de vue de la société, on est renvoyé au psy, à une introspection personnelle, alors que c'est quand même, au départ... quelque chose de collectif, quoi. Pourquoi dans une équipe il y a tout d'un coup des gens qui sont cramés ou qui sont, je sais pas, cramés, brûlés? c'est quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on peut remonter à la psychologie, est-ce que j'étais trop fragile, est-ce que ceci, mais c'est pas le seul, c'est quand même pas la seule cause, quoi. Or c'est comme si c'était vraiment de ta propre responsabilité. Et qu'il fallait, on est dans une société quand même qui adore le mot de résilience. Moi, je déteste
moi
ça.
Aussi.
Je déteste ça parce que, mais on est vraiment, c'est pas grave de tomber, mais faut se relever, quoi. Et rien n'est dû à celui qui ne se relève pas tout seul, quoi. Mais sauf que là, on se rend compte que ça marche pas bien, et du coup, maintenant, on le traite par l'autre bout, qui est les causes. Oui, mais il faut trouver des dispositifs d'un retour au travail, des temps partiels médicaux. Et où, au niveau des conséquences, là, c'est l'inverse. Là où, au niveau des causes, on est tout seul en tant qu'individu, et au niveau des conséquences, on n'a plus le droit à la parole en tant qu'individu. C'est le système qui va nous faire un gentil petit cocon, éventuellement, pour qu'on on revienne sans qu'on nous fasse trop mal en disant... On revienne au boulot, mais ça ne marche pas non plus, parce que s'il n'y a pas de lien entre la cause et la conséquence, et qu'il n'y a pas de lien non plus entre le collectif et l'individuel, forcément, ça ne marche pas, quoi.
Mais Pierre, ça y est, nous, on est partis, ça y est, quoi. Alors, je tiens à dire que ton bouquin, je n'ai pas eu l'occasion de le lire en entier, mais franchement, j'accroche à fond, quoi. Je suis venue chez toi, j'en ai un exemplaire, voilà. Il y a quoi? Je suis à la 92e page, il y en a combien? 170. Voilà. Donc, je n'ai pas pu tout lire, mais je kiffe vraiment ton livre, et je n'ai pas eu le temps de souligner les passages, mais un petit peu quand même. Tu vois? Et donc, il y avait cette idée de cette phrase. Il y a dans ce pays, ça suit ce que tu viens de dire aussi, il y a dans ce pays plus d'inaptes au travail que des personnes au chômage. Mais le problème est mis sous le tapis. Voilà. Quand j'entends ce que tu viens de dire et quand je lis cette phrase de ton bouquin, eh bien, c'est logique dans le système dans lequel on est, tu vois, de faire tout pour mettre ça sous le tapis. Non?
Oui,
c'est cohérent.
C'est cohérent, et c'est ce qu'on appelle l'état social actif, qui est encore une fois la résilience, tomber 8 fois, se relever 9 fois. D'ailleurs, on fait autant, pour l'instant, on fait la chasse aux chômeurs, la chasse aux malades, et en même temps.
Mais quand tu dis on, moi j'aime bien toujours dire oui, voilà, parce que c'est pas toi et moi.
Hein. Oui, non, c'est notre gouvernement. En même temps, et je trouve ça assez intéressant de le noter, c'est que il se bat pour que les entrepreneurs qui ont fait faillite soit ne soient pas stigmatisés, soit réhabilités, et donc bon, il y a du clientélisme électoral évidemment parce que c'est leurs électeurs, mais quand même, ça participe. De ce fait que la résilience, c'est bien, quoi. On est une société de battants, on tombe, on se relève, et...
Comme si tout le monde déjà était capable de ça aussi,
ouais,
ça va
passer. Aussi, le monde du travail, c'est un grand tatami, et on se prend des beignes, puis on se relève, c'est pas grave, on s'endurcit. Mais d'abord, est-ce qu'il faut s'endurcir? Y a quand même une espèce... Alors que le burn-out, c'est plutôt une crise de fondation. C'est pas tomber au sol, c'est tomber... plus bas, et ça ébranle. Et pourquoi c'est difficile? C'est que ça va vraiment dans les fondations et qui sont, qu'on le veuille ou non, collectives, quoi, dans l'imaginaire, dans qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on peut, et l'idée de se réparer pour y retourner, je sais pas, si on a craqué une fois, est-ce qu'on va s'endurcir pour reprendre des beignes encore une fois?
Mais tu parles du même endroit, parce que, ok, on
ou
fait...
Au même endroit, ou même ailleurs, hein.
Ou même ailleurs, c'est important de le dire aussi, alors.
Ouais, on est en pleine déstabilisation, parce que, est-ce que, déjà, on est obligé de se dire malade, et effectivement, il y a une part d'état malade, mais la maladie, elle est collective aussi. Et est-ce qu'il faut guérir tout seul d'un système malade? Est-ce que la maladie n'est pas un indice de bonne santé, justement? Parce que ça m'a rendu malade parce que c'était toxique et qu'il faudrait quand même aller voir pourquoi ce système toxique rend les gens...
Parce que ça, on n'en a pas encore parlé et là, les gens peuvent ne pas comprendre. C'est que qu'est-ce qui t'a fait cramer, quoi? C'est peut-être intéressant aussi de le comprendre, quoi.
Et bien, donc, c'est là où...
À ton boulot, sans rentrer, on a dit...
Et donc, il faut peut-être préciser maintenant que c'est un roman dont on parle, de savoir qu'il y a... et c'est important parce que, effectivement, ça part de quelque chose d'autobiographique, d'une difficulté à raconter. Et donc, du coup, il faut aller réajouter de l'humain, c'est-à-dire de l'imaginaire. Et pour l'expliquer, il faut quand même... repréciser qu'on parle d'êtres humains, quoi, dans leur complexité. J'ai identifié d'une manière sur laquelle le roman revient sans arrêt, le personnage y revient, c'est qu'il y a une scène où, alors que l'équipe dans laquelle se trouve le personnage a subi plein de crises, plein de remises en question, de médiations, de confrontations, etc., est en train de se redéfinir. Et puis tout d'un coup, alors une réunion qui est la réunion page blanche où on va tout mettre à plat et rassembler les petits morceaux pour dire qu'on va vraiment réinventer le projet. Et ben au lieu d'une page blanche, il y a l'animatrice de séance qui propose une grille. Et là le personnage il pète un câble, il dit putain, si on confond la page blanche et la grille, moi je peux plus, quoi. Et c'est ce moment où, à la place d'une page blanche, on découvre une grille. Une grille, c'est un élément d'une cage, etc. Enfin, c'est un tableau Excel. Ça veut dire qu'on a posé la question du sens et puis qu'on a décidé de pas y répondre et qu'à la place, on va mettre des procédures, un logiciel.
C'est important de le développer aussi, ça, parce que sinon, on comprend pas.
Et justement, moi, je...
Parce que tu décrives un peu, mais c'est quoi qui t'a fait cramer, quoi? C'est la perte du sens du travail, petit à petit? C'est quoi? C'est de l'autorité au travail? Qu'est-ce que c'est exactement qui t'a fait cramer, quoi?
Mais véritablement, c'est qu'on a posé la question du sens et qu'on a sciemment décidé de ne pas y répondre. C'est pour ça que j'ai appelé faire et faire semblant. C'est que, en fait, ça a l'air binaire. Faire semblant, ça a l'air d'être le contraire. En fait, c'est pas tant que ça. Parce que on fait tous un peu semblant et que pour enfin, personne n'est que dans le faire et jamais dans le faire semblant. Parfois, je sais pas, quand t'étudies, tu sors de l'école, tu te vois là où tu veux arriver, et donc tu fais un peu, tu imites un peu ce à quoi tu veux arriver. C'est peut-être la meilleure manière d'y arriver. Donc faire semblant, c'est pas que le contraire de faire. Et on est dans une situation, dans une société qui confond un peu le point de départ et le but à atteindre. C'est-à-dire que, mais là où tu crois faire et que tu te rends compte que à jamais tu as renoncé et que tu qu'il y a plus de, enfin il y a une espèce de choses qui se squeezent, et que au lieu de cette recherche, on va juste faire semblant. Si ça avait été la donne de départ, et que la personne qui t'engage dit bah ok, ici on fait des projets, c'est comme ça, ça prend autant de temps, tu remplis les cases et c'est comme ça qu'on fonctionne, tu peux l'accepter ou pas l'accepter, ça va pas te rendre malade, quoi. Tu dis c'est quoi cette connerie, je travaille pas pour des branquignoles comme ça. Mais si maintenant tu es dans quelque chose que tu fais sincèrement, que tu fais avec cœur, que tu fais...
Mais c'était ça que j'avais envie que tu parles un peu. Mais quoi, ton travail, tu trouvais du sens quand t'as été engagé, tu parce que t'en parles un petit peu dans ton bouquin, mais toi j'ai pas su le souligner. Je l'ai lu en PDF, je l'ai lu voilà sur un écran vite fait. Mais tu dis que tu y trouvais du sens. Et j'avais envie que tu développes un peu cette idée. C'était quoi que t'aimais bien dans ton boulot, parce que...
Mais alors c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire, ou l'éducation permanente en Belgique, pas dans le sens d'un décret avec des axes et des mais justement cette idée que de travailler avec des publics qui et d'amener des personnes à prendre en considération leur expérience pour en faire une source de savoir, et non pas quelque chose qui a un témoignage qu'on va amener aux personnes qui vont t'expliquer ce qu'on doit en penser. Mais c'est vraiment une attitude par rapport, qui est aussi une attitude politique, au sens vraiment d'une tradition ouvrière au départ, de on n'est pas, voilà, on a été à l'école, plus ou moins, on a reçu une certaine formation, et puis on rentre dans la vie active. Non, tout au long de la vie active, collectivement, on va essayer de par différentes techniques, de l'arpentage qui est très connu, de réflexion, de d'écouter des paroles qui émergent, et de dire voilà, c'est nous, d'où qu'on soit, quelle que soit notre expérience, on a l'expérience du vécu, et ce vécu n'est pas est quelque chose qui nous donne un certain savoir. C'est nous qui avons ce savoir, et pas ceux qui vont nous dire
voilà, ce qu'on doit faire, comment on doit manger, comment on doit penser, comment on doit...
Et ce que notre expérience, effectivement, après analyse, oui, effectivement, donc on va vous proposer des modalités, etc., comme si on n'était pas capable de penser par nous-mêmes. Et ce qui était le cœur de mon travail devient le cœur aussi de mon écriture. Maintenant que j'ai été exclu ou auto-exclu ou cramé d'un univers qui pratiquait et qui prétendait pratiquer ça, justement en essayant d'inverser la verticalité de voilà, il faut penser comme ça, un projet ça se monte comme ça, et puis on connaît à l'avance le résultat. Ben non, si tu connais à l'avance le résultat, c'est pas la peine de faire l'aventure.
Bien dit ça, Pierre. Non mais c'est vrai, parce qu'on est là. Donc attends, parce que c'est le temps, il est court, on avance. Du coup, tu comprends que entre le début, tes premiers jours d'engagement, et puis je sais pas après combien de temps, tu découvres que c'est plus du tout ça, t'y es plus du tout. C'est le burn-out.
Ouais, c'est se rendre compte que tout ce qu'on a investi, tout ce que, parce que c'est une histoire aussi de tas de gens qui sont passés par là, c'est pas l'histoire de quelques personnes, c'est quand même
une bataille politique, non, un peu.
Oui, il y a une bataille politique, il y a un projet, il y a quelque chose qui a vécu, qui est plus riche que la somme des personnes qui y travaillent, quoi. Et si maintenant, justement, cette volonté de rendre compte de ce qui se passe dans la société, soi-même, on va se transformer en administration avec un bureau, on va faire des conventions, on va faire des petits logiciels. C'est le contraire de ce qu'il faut faire.
C'est trop bien parce qu'il y a plein d'associations. Ce que tu décris, il y a plein d'associations aujourd'hui qui vivent ça.
Oui.
Alors, les gens sont peut-être pas cramés. Moi, j'entends dans le milieu, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont dans le burn-out. Hein.
Oui, oui. Et il y a des gens qui sont plus costauds que d'autres, mais effectivement, ou qui partent faire de la maçonnerie ou de la poterie.
Ouais,
ou de. Mais parce que c'est compliqué, parce qu'on est quand même dans une époque de guerre culturelle. C'est pas nous qui l'avons déclaré, mais. Que ce soit De Wever qui avec son bouquin sur les woke, Boucher qui déclare « Je suis en guerre culturelle » et il le montre. C'est-à-dire qu'on va casser, il y a un projet de casser la solidarité, de casser Boucher a quand même dit je suis contre l'intelligence collective. Or, c'est tout.
Au moins, ce type, ce sale con, on va dire que c'est cohérent.
Oui, c'est cohérent.
Tandis que chez nous, quand je dis chez nous, ça me fait rigoler, hein, parce que mais je veux dire, tu sais, la gauche, l'extrême gauche, je sais pas comment, hein, ceux qui sont soi-disant pour la solidarité, non, c'est pas soi-disant, ceux qui sont pour la solidarité, pour tous les chouettes mots là, hein, c'est plus compliqué chez nous, quoi, c'est plus pervers, c'est comme tu dis, je veux dire, au départ, c'est un projet. Politique là, d'émancipation, mettons le mot quoi, pour aller plus vite. Et puis après, en fait, petit à petit, on se fait manger le cerveau, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans ça. Mais on continue, il faut bien gagner sa croûte quoi, tu vois. J'avais envie de t'entendre là-dessus, tu vois, sur le. Moi, je fais vite, hein, on n'a pas le temps de développer, mais sur notre. Parce que Boucher, De Wever et compagnie, voilà, c'est des enfoirés, c'est des. Tu vois, ils sont là, occupés à. Ils sont dans la bataille, c'est vrai, mais pour le moment, ils sont au pouvoir. Mais de l'autre côté, l'autre camp, il est. C'est quoi ? C'est quoi ton point de vue ?
Mais l'autre camp, il a quand même perdu l'habitude de gagner. Il a pris l'habitude de faire le gros dos et de perdre le moins possible. C'est pas très mobilisateur de dire on va perdre le moins possible. On va essayer de résister, de ralentir mais il y a une difficulté de la gauche en général pour faire large à retrouver une force de projet.
Tu trouves pas qu'elle a été, enfin, quand on regarde l'histoire et moi par les petites choses que je sais, il y a eu traîtrise aussi, quoi. Il y a eu.
Je pense qu'il y a aussi, et là, on s'est rendu compte, on a vécu très longtemps, et là c'est de gauche comme de droite, sous le régime du productivisme, c'est-à-dire qu'on a cru longtemps que plus on produisait, plus on consommait, plus on serait heureux, et qu'il y avait une espèce de ligne droite vers un projet,
ouais,
un
progrès. Ça a l'air complet dans ton livre, j'adore, parce que tu prends les Néandertaliens et les Sapiens, tu reviens souvent avec ce. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça ?
Mais parce que justement, je suis tombé dessus pendant mes temps libres, pendant au début de mon burn-out, justement sur cette idée que deux humanités, l'une dont nous avons hérité, qui était les Sapiens, et l'autre qui a précédé, mais ces deux humanités différentes, un peu cousines, ont cohabité et il y en a une des deux qui a disparu. On ne sait pas s'il y a eu génocide, extinction, maladie, etc. Mais il y a quand même, on a en nous quelques pourcents de Néandertal, ce qui veut dire qu'il y a eu au minimum quelques échanges intimes. Plus dans un sens que dans l'autre, ce qui est très bizarre, c'est que dans les squelettes et tout, moi je suis pas anthropologue, hein, mais dans les squelettes néandertaliens, on n'a pas trouvé de gène sapiens, mais dans les squelettes sapiens, on trouve du Néandertal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut présager quand même de choses pas très sympathiques, genre génocide.
Mais quoi, tu veux dire qu'il y a eu un rapport de force et que c'est les sapiens qui ont... C'est ça que ça voudrait dire quand on dit qu'on a retrouvé...
Oui, c'est-à-dire que dans les populations, généralement, quand il y a des croisements, c'est d'un village à l'autre, c'est qu'il y a échange, quoi. Échange, c'est-à-dire, généralement, il y a le consentement et le mariage d'amour, c'est pas tellement ça qu'on étudie, c'est la tribu untel qui dit voilà, ok, je te donne ma fille, mais la tienne, elle vient chez moi et la mienne, elle ira chez toi, et comme ça, on fonctionne. C'est pas comme ça que ça a fonctionné. Et par ailleurs, c'est ce qui m'intéressait aussi, on peut supposer une espèce de... C'est moi qui le fais avec... je le fais... C'est une spéculation parfaitement... Spéculative. Qu'il y a eu une espèce de guerre culturelle. C'est que Sapiens a, par rapport à Néandertal, un côté productiviste, c'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils font, c'est eux ils font des flèches à tire-larigot pour tuer plus que ce qu'il ne faut, alors que Néandertal a un rapport aux outils très très différent. Aucun outil néandertalien ne ressemble à un autre outil. Ça veut dire comme si chaque néandertalien fait son outil qui est une part de lui-même, et c'est là-dessus que j'ai d'une manière, c'est mon personnage qui rêve de ça, qui se fait une espèce de théâtre intérieur, lui-même se sentait forcément du côté du perdant, quoi. C'est qu'il y a une guerre culturelle, une certaine part de nous est en train de perdre une guerre parce que l'autre est plus rationaliste, mais on n'a pas envie.
Quand tu dis on n'a pas envie, y a sûrement d'autres qui ont envie.
Ouais, mais mon personnage si guérir d'un burn-out, c'est intégrer le productivisme de Sapiens, c'est un peu comme les Amérindiens en Amérique, quoi. Ils se laissent mourir de faim, d'alcoolisme, de choses, parce que pas envie, parce qu'on leur a piqué leur culture, leur terre, leur tout, comment ne pas tomber malade, comment ne pas tomber plus bas que tout quand sur notre terre il y a tout ce qui faisait sens. Et piétiner par des choses pas forcément intéressantes de leur point de vue. Et donc là, la guerre culturelle, elle peut aller jusqu'à quelque chose de potentiellement génocidaire. Et de là, j'en arrive aussi à ce qui a fait que Sapiens a ce côté hybris, comme ça, de se croire. C'est aussi ça, c'est ça qui a fait l'esprit colonial, c'est ça qui a fait la crise écologique, c'est ça qui a créé la dette. Les valeurs productivistes, le mythe de la croissance. La croissance dans un monde sans croissance, ça veut dire qu'on va piquer aux autres, quoi. Et que on est une espèce, on est les héritiers d'un possible génocide il y a 40 000 ans, mais aussi d'un imaginaire qui est conquérant, qui est prédateur, qui est...
Tout ça, d'accord.
Qui bouffe plus que ce à quoi il a droit, qui spolie ses ancêtres, ses enfants, les enfants de ses enfants, la planète, le tout.
Et c'est... Mais pourquoi c'est ça qui gagne, hein? Parce qu'on en est là encore aujourd'hui, alors.
On en est là aujourd'hui tout en sachant que c'est affreux, que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la conscience des limites planétaires, de l'aberration dans lequel on va, tout en continuant à enseigner dans les écoles de gestion des choses dont on sait qu'elles sont fausses, mais parce qu'on n'en a pas d'autres. Et donc, et c'est là où faire et faire semblant, c'est-à-dire que dans le désarroi, eh bien, on va se retrancher sur ce qu'on sait, le modèle. C'est aussi la carte et le territoire, quoi. C'est que le territoire, c'est compliqué. Donc, du coup, on va faire une carte, on va simplifier. Et donc, ça va rendre plus facile le fait de produire, consommer. C'est quand même ça qui est important, non? C'est de produire et de consommer. Même si, ok, ça, c'est mortifère pour tout. Ça marche pas. Mais on sait rien faire d'autre. Donc, on va continuer, quoi. Et c'est là aussi où je fais la différence entre dans la raison, il y a deux faces, quoi. Il y a la raison raisonnable, c'est-à-dire on s'assied par terre, on réfléchit et on crée des choses un peu bizarres, mais qui, toutes choses étant analysées, ben on en arrive à trouver une solution qui est unique parce que on y a réfléchi. Et puis sinon, il y a la raison rationnelle qui est on va faire un tableau et tout doit correspondre au tableau et c'est comme ça qu'on va résoudre tout ce qui va nous arriver, quoi. C'est deux faces de la raison, mais il se fait que la raison rationnelle, elle peut nous mener bien plus loin que la catastrophe. Parce que le réel n'a qu'à s'adapter, tandis que la raison raisonnable, elle a réinventé chaque fois. Mais du coup, la question du sens est intégrée et elle n'est pas éliminée comme ça parce que, soyons sérieux, il faut continuer. Bon, c'est pas tout, il faut bosser, quoi. Mmh. Allez, retournez bosser et c'est vos questions. Et effectivement, là où c'est difficile d'assumer, en tant que malade du travail, qui a plein d'idées, qui a plein d'envies, mais qui se retrouve malade, donc improductif, ramené tout seul à ruminer.
Mais c'est trop bien aussi, ça, tu crois pas ? Dans le sens que, oui, je veux dire, c'est très bien, on est des êtres... comment on dit ça ? On n'est pas tout seul, il y a le collectif, il est là, oui. Tu vois, mais on n'est pas tout le temps... Moi, je trouve que ça fait du bien aussi de... Après, bon... Ça fait du bien aussi de pouvoir un peu prendre du recul, parce que sinon on est tout le temps pris, tu sais, on dit ça, la tête dans le guidon, quoi. Tu vois, t'as pas le temps et ça marche bien, tout est mis comme ça pour que t'as jamais le temps d'un peu te poser, d'un peu creuser, d'un peu aller. Ouais, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Oui, 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 mais ça fait du bien aussi, quoi. Je veux dire, c'est du luxe, hein, ça aussi, dans notre système, tu vois, parce qu'à la base, normalement, ça devrait être normal, tu vois, d'être un peu, de pas toujours courir, de prendre le temps, de caresser ses chats, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Et dans notre monde, tout ça, ça en fait du luxe, quoi, voilà, tu vois.
Ouais,
de prendre le temps, c'est du luxe.
C'est du luxe et c'est pas sérieux. Et oui, comme pour en revenir à notre gouvernement qui prend décidément beaucoup de place, et on dit fini les poètes, on va mettre des ingénieurs à la place. L'ingénieur ne doit pas créer des outils qui ne se posent pas la question du projet, de l'adaptation. C'est le réel qui va s'adapter à l'outil parce que l'outil, il est parfait. Il est adapté à ce qu'il sait faire. Et donc, du coup, le travailleur doit se servir de l'outil fait par l'ingénieur qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, qu'il serait incapable de faire lui-même. Mais c'est l'outil. Outil, c'est au sens très, très large, quoi. Tandis que le poète, il va réfléchir, effectivement, prendre plus de temps, peut-être parfois ne rien faire, parce que parfois il faut ne rien faire.
Oui, c'est trop bien ça de ne rien faire.
Par rapport à la nature, c'est toujours intéressant. C'est la nature, elle incite aussi à se régénérer, prendre le temps, à agir. C'est mal agir généralement, mais et faire des outils alors qu'on comprend, qu'on maîtrise, qui sont inédits, parce que la situation elle-même est inédite, mais qui répondent réellement aux besoins, et que chaque situation fait que ces outils, on les comprend, on les possède, c'est nos outils.
Merci,
et c'est beaucoup plus riche, ça donne beaucoup plus de sens d'avoir ses propres outils qu'on comprend, qu'on a fabriqués, qu'on maîtrise, qui...
Mais normalement, enfin, après, ça, c'est un gros sujet aussi, l'outil, hein, parce que j'avais entendu et j'aimais bien cette idée que dès qu'un outil ne nous rend plus, dès qu'on ne sait pas être autonome sur la réparation de son propre outil, il faut laisser tomber l'idée, tu vois, que ça nous dépasse, que l'outil est trop énorme. Moi, j'aimais bien cette idée.
Si maintenant, c'est pas mon sujet, mais c'est finalement un sujet assez voisin. Quand on parle d'intelligence artificielle, de remplacement, pourquoi est-ce qu'on risque d'être remplacé? C'est parce qu'on comprend pas nous-mêmes les outils. Que les outils sont plus puissants que nous. C'est eux qui ont le projet, c'est pas nous.
C'est ça. Oui, c'est eux qui ont le projet en sachant qu'il y a des gens, des humains derrière qui les mettent en place. Hein. Oui. Ça n'est pas comme ça du ciel.
L'intelligence artificielle.
Ça, c'est un autre. Enfin, c'est compliqué.
Mais à force d'avoir des outils qui sont monofonctionnels, hyper spécialisés, incompréhensibles, très très complexes et obsolescents en plus.
Ça nous rend dépendants.
Ça nous rend complètement dépendants et remplaçables.
Bien sûr. Mais bon, l'histoire avec la bagnole, là, il y a un passage avec la bagnole. J'avais envie que tu développes un peu cette idée, parce que je n'ai pas eu le temps de continuer. Mais donc, dans le roman, l'auteur explique qu'il n'a plus de bagnole, que c'est une charge mentale. Allégée, quoi.
Oui, que remplacer c'est aussi dans l'idée de par rapport à ses voisins qui ont des grosses bagnoles, le trafic dans lequel il est, dans un quartier populaire dans lequel les gens relativement modestes ont des grosses bagnoles, tournent avec en faisant plein de bruit.
Chez les riches aussi, hein. C'est pas simplement une question.
Oui, non, bien sûr. Mais quel est l'imaginaire qui, c'est pas se déplacer rationnellement qui fait ça. C'est que il y a et donc lui a ce dans un principe. C'est aussi une question qui ramène à la question d'éducation populaire, c'est-à-dire lui.
L'auteur.
L'auteur, le personnage, l'auteur, enfin le narrateur, a trouvé logique de se débarrasser de sa voiture parce qu'il en a, il peut utiliser des moyens collectifs, des voitures partagées, etc. Et donc, maintenant, ses voisins qui investissent des choses beaucoup plus. Très différentes. Comment ne comprennent pas ça et comment, en tant que dépositaire d'un projet d'éducation permanente, tu peux expliquer sans paternalisme, sans prendre des gens pour sans te sentir supérieur. Mais non, pauvre crétin, t'as rien compris. Ça m'avait marqué et on en revient aux dernières élections dans la campagne électorale ici ou dans la commune où j'habite où pas grand monde ne travaille, mais aux dernières élections le maire, pour en revenir à lui, a fait beaucoup de campagnes, essentiellement sur Good Move, tout à la bagnole, et ça a marché, mais du tonnerre, quoi.
Ouais, parce qu'on touche à la bagnole, quoi.
Et c'est là où je discutais avec, je raconte ça dans le roman, il y a des travailleurs d'éducation permanente, des éducateurs de quartier, qui se disent, putain, ces gens, on les aide, on se bat avec eux contre les violences policières, contre les trucs. Et puis, ils laissent faire, quoi. Et on touche à leur bagnole. Là, ils montent dans la rue, ils vont... Ils sont...
C'est hyper normal, non ?
Ils sont complètement désordonnés. Oui, mais c'est...
Parce que dans le livre, c'est ça, j'ai pas eu le temps de continuer à lire, mais ça m'intéressait. C'est quoi ?
En fait. C'est là où il faut accepter, et c'est ça, je pense... Ce qui serait intéressant dans une perspective d'éducation populaire, c'est si tu veux revendiquer l'inversion des verticalités, etc. Tu dois laisser les gens partir de là où ils sont, de leur imaginaire, et pas leur dire non, c'est mal ce que vous pensez. Même si ça heurte ta sensibilité et la mienne, ben voilà, c'est comme ça. On n'a pas la même histoire, on vient pas du même endroit, donc c'est normal qu'on pense pas différemment, on n'investit pas les choses de la même manière, et donc on peut pas dire on est pour l'émancipation, la solidarité, etc. Ouais, mais vous pensez comme moi, hein. il faut accepter que, bah oui, on est dans un monde compliqué où tout le monde n'a pas la même, le même imaginaire, ne vient pas de la même, du même endroit. Et
oui,
donc,
c'est sûr, mais il y a aussi tout simplement, moi j'ai envie de dire, quand j'entends ça, quand je t'entends, quand je lis, parce que j'ai un petit peu suivi l'histoire de Good Move, là, c'est que carrément, on rend dépendant les gens à la bagnole. Avec le pétrole et tout ce qui va avec, quoi. Et puis après, on leur dit, bon, ben, démerdez-vous pour vous déplacer, pour aller bosser. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est là que se situe aussi le nœud du problème. C'est pas forcément... Après, évidemment, si tu veux que l'autre pense comme toi, mais que ce soit le sujet du vélo ou un autre sujet, on pourrait développer... Tu vois, il y a plein d'autres sujets qui feraient que je me prends la tête avec toi parce que t'as pas la même idée que moi. Il y a plein de sujets, tu vois. Mais le sujet de la bagnole, c'est quand même un sujet énorme, quoi, non ?
Et bizarrement, le vélo, en tout cas à Bruxelles, est devenu un marqueur plutôt de classe aisée. C'est les classes moyennes supérieures qui ont des vélos souvent électriques assez chers, etc. Mais enfin, bon, un vélo même cher, un vélo cher, c'est quand même moins cher qu'une bagnole pas chère. Mais...
Ouais, sauf que tu peux moins transporter de choses, et là, et là. Moi, ouais,
je crois... Et que c'est pas dans. Et que. On vient pas du même endroit, et donc on n'a pas la même trajectoire, et donc c'est pas. Il faut accepter qu'on est.
Mais quoi, c'est ça ton message, en fait? C'est ça que tu avais envie de dire, qu'il faut accepter qu'on soit différent, qu'on vient pas du même endroit?
Mais tu peux pas à la fois...
C'est ça que tu veux dire?
Tu peux pas à la fois...
Je l'entends, hein.
Oui. Mais c'est qu'il y a une contradiction.
C'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est qu'il y a une contradiction dans l'éducation populaire, de dire, non, on est pour l'émancipation, mais quand ça nous arrange pas, attends, on est, oui, il y a quelque chose de néocolonial à dire. Pense par toi-même, mais quand même comme moi, quoi.
Oui, mais on est très fort là-dedans. J'ai l'impression dans notre époque, on doit tous penser, même si on peut discuter toi et moi, on n'est pas du même avis. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Il faudrait qu'on pense tous la même chose, et alors ça fait des camps. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on avait oublié la complexité de la pensée, quoi. Attends, on réfléchit,
oui.
Non?
Oui, tout à fait. Oui, effectivement, les choses sont plus complexes et. Et par exemple, faire et faire semblant ne sont pas nécessairement des contraires. C'est juste...
C'est marrant parce que là, je vais prendre le temps d'essayer de me faire comprendre. Mais quand tu dis faire et faire semblant, je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est différent. Je ne comprends pas le titre, en fait, parce qu'on pourrait dire faire... Je ne sais pas si tu vas me comprendre, j'espère, parce que sinon, ça va être galère. Je ne sais pas s'il faut aller dans cette direction parce qu'il reste... Allez... Il y a 43 minutes.
Ouais.
Il reste en gros 12 minutes, quoi.
Conclure.
Non, on va prendre le temps d'aller vers la fin et de donner... Enfin, les gens, tu vois, suite à notre discussion, ils auront peut-être envie d'aller chercher le bouquin, hein, pour en savoir plus.
Faut dire que c'est drôle aussi.
Tu dis ?
Faut dire que c'est drôle aussi, d'abord. Mais bon, ça, c'est à la fin que tu...
Ah ben tu sais, c'est drôle.
Ouais, c'est drôle.
Ok.
Non ?
Mais comme je l'ai lu un peu à la... Tu vois, je lisais, je n'ai pas pris le temps de le lire, Moi, j'aime bien ce passage où tu dis... Le narrateur, là, il dit... quand il lit un bouquin et que ça lui plaît, il le dévore pas. Tu vois, il y va doucement, il lit une phrase, puis il revient. Tu vois ?
Ouais, puis aussi... et ça c'est vraiment... Je suis comme ça, je ne suis jamais... tout à fait sûr d'avoir lu... surtout quand ça m'intéresse, je me fais un tel sinoche en même temps que ça fait résonner plein de choses. Et donc, est-ce que ce que j'ai projeté en lisant, c'est entièrement ce que l'auteur a voulu dire, ou le dialogue que j'ai fait avec ma propre expérience? Et ça, c'est...
Je crois que tout le monde se dit ça aussi. Est-ce que j'ai vraiment bien compris, tu vois?
Oui. Ah, ben, c'est pas... Mais
qu'est-ce que... Enfin, moi, j'avais noté encore, le musée de l'Afrique, t'en as parlé aussi. Pourquoi le musée de l'Afrique? Tu parles aussi des colonies, mais t'as un petit peu souligné ça.
Oui, c'est... parce que... C'est un bon exemple, je trouve, de rapport un peu complexe au paternalisme, à la supériorité et au malaise. Bah, clairement, déjà, ce musée qu'on n'arrive pas à nommer parce que c'est des jalouches, quoi. Il n'y a aucun nom qui convienne parce que c'est pas parce que c'est compliqué, parce qu'on a on a envie de se repentir mais pas complètement, et que il y a des tensions, quoi. Il y a des gens qui disent ouais, mais tout n'est pas à jeter, dans les colonies il y a quand même eu, on a construit des trains, mais oui il y a eu des crimes contre l'humanité, on...
C'est pas grave.
c'est quand même notre mais ce qui serait intéressant, et mon personnage à un moment donné va visiter ce truc et se retrouve face à l'éléphant dans la pièce, qui est l'éléphant qui est il y a un grand éléphant à l'intérieur du truc, qui se dit mais oh, putain, qu'est-ce que ce projet colonial aberrant, criminel, détestable, c'est quand même ok, c'est important de c'est là aussi où chacun doit partir de d'où il vient. Nous on est des héritiers de ça, on n'en a pas la culpabilité, etc., mais c'est quand même, qu'est-ce que cette idée a fait de nous, a fait aussi que justement, est-ce qu'on aurait été capable de penser le modèle productiviste de croissance s'il n'y avait pas eu les colonies? Ben non. C'est le fait qu'on a été pillé ce qui ne nous appartenait pas, qui a rendu possible l'idée même de croissance qui est à la base de notre vision du progrès, du bonheur, de la prospérité. Donc c'est faux. Ce qui est intéressant à se dire, c'est pas on est coupable, on est oui, bien entendu, les luttes décoloniales doivent être menées, par les personnes qui en ont été victimes. Nous-mêmes, on est...
Oui, mais aussi par nous, quoi. Enfin, nous, on a...
Oui, mais nous, de notre point de vue, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce que cette idée, qu'est-ce que cette aberration a fait de nous et continue à faire de nous. Pourquoi est-ce que dans les écoles de gestion, aujourd'hui, on apprend encore à faire des modèles de prédation, de croissance, alors qu'il n'y a pas de croissance?
Oui, moi, j'entends bien ce que tu dis. Mais souvent, on parle de nous, toi, moi, mais ça se passe aussi en haut, quoi. Je veux dire, on aimerait bien tout péter, quoi, pour remettre les choses à plat, tu comprends?
Oui.
On parle toujours de... Alors oui, on a évidemment qu'on a une responsabilité, mais elle est quand même moindre que ce système qui est opaque là-haut, qui tient bien la route, qu'on met toujours les mêmes et les mêmes familles. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais la responsabilité, la culpabilité, c'est... presque accessoire, je dirais. Qu'est-ce que ça a fait de nous? Ça veut dire que ça joue sur notre manière d'envisager les choses. On n'aurait pas envisagé les choses de la même manière si ça n'avait pas eu lieu. Ça nous a construit plus que ce qu'on...
Oui, comme si on sortait de ce moule-là, quoi.
Donc, oui,
moule.
On doit aussi se décoloniser, parce que se défaire de cette... De ce cancer, de cette abomination qui a été la colonie, on en est aussi les victimes, pas les victimes on en est victimes parce qu'on en a des privilèges qu'on se fait lapider, traiter de woke et de piquetou quand on dit que quand on critique l'héritage colonial, etc., qu'on se dit mais c'est pas juste pour se flageller, c'est juste parce que nous-mêmes ça nous a porté préjudice, et ça porte surtout préjudice ça contribue à nous mener à la catastrophe vers laquelle on va, quoi.
D'accord, je comprends. Il y avait aussi, j'aimais bien celle-là, la santé mentale est un secteur d'avenir. Vrai, hein?
Ah bah oui.
qu'est-ce que tu veux dire?
Bah que, effectivement, les personnes malades du travail sont systématiquement renvoyées vers leur... ils vont voir leur médecin généraliste, qui disent effectivement, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, je vais vous mettre en congé. Mais... si vous voulez justifier, ça va durer un temps. Si vous voulez justifier que vous vous occupez bien de vous, faut aller vers la psychiatrie, faut aller vers la psychologie, faut vous prendre en charge. Et donc ça, encore une fois, ça oriente vers des filières qui quelque part s'industrialisent un petit peu.
Mais en gros, ça veut dire, moi je le lis comme ça, devenez psychologue, psychiatre, il y a du boulot demain pour vous, quoi.
C'est clair. Et il y a aussi du boulot aussi, nécessairement, surtout si on est dans la médecine conventionnée, pas trop chère, s'il y a toujours des psys à 150 euros qui vont t'expliquer, mais les personnes qui veulent rester effectivement, est pris d'assaut et donc doivent s'organiser et donc doivent aussi un petit peu s'industrialiser d'une certaine manière, c'est-à-dire que voilà, maintenant on sait que on va certainement arriver à faire un petit tableau Excel qui est comment on accueille le bon petit dépressif malade du travail, et on n'en sort pas en fait.
Oui, mais donc on soigne les causes et pas les conséquences, quoi, parce que c'est ça qu'il faudrait véritablement se mettre tous à travailler, c'est de casser les conséquences.
Et ça, c'est pas que la psychologie qui va le faire, c'est la société, quoi. Tant qu'on ne pose pas la question de tant qu'on ne recollectivise pas la cause et qu'on n'individualise pas la solution, on n'y arrivera pas, quoi.
Et c'est quoi alors une des petites pistes tu peux dire, je ne sais pas. Hein. C'est quoi les pistes? Comment faire pour changer ça? Comment faire pour s'y mettre? Comment faire pour...
Modestement, c'est déjà de s'intéresser à l'expérience humaine que vivent les gens qui traversent cette expérience. C'est un peu mon ambition, à la fois à usage personnel, mais que j'ai voulu romancer, c'est-à-dire mettre à distance pour que d'autres personnes puissent éventuellement rentrer et se dire « Ah oui, tiens, j'avais pas pensé ça comme ça. » Et donc, éviter de renvoyer les malades à leur maladie en leur disant « Soignez-vous,
mangez bien, dormez bien, voilà, allez vous promener.
Soignez-vous, retapez-vous et revenez en pleine forme parce qu'il y a du boulot. » C'est pas aussi simple et il faut aussi interroger qu'est-ce qui a rendu ces gens malades, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que dans certaines boîtes, dans certaines équipes, il y a des taux de broyage d'humains mais monstrueux et qu'on n'interroge absolument pas. On laisse des gens toute leur carrière foutre en l'air des gens, harceler et puis rien, aucun conseil d'administration, aucune autorité, même la médecine du travail ne tient même pas la comptabilité. Vous savez que dans telle entreprise, je suis le 17e sur 18 à être tombé malade. Non, personne ne tient cette comptabilité-là. C'est quand même bizarre, quoi.
Comment tu sais ça? T'as fait une petite recherche?
Bah, ne fût-ce que les gens que j'ai connus, quoi. À un moment donné, j'étais le plus vieux dans la boîte, tous les autres étaient partis en bousiller. À un moment donné, ça pose question, quoi. J'ai donné l'alarme, j'ai convoqué le conseil d'administration, j'ai dit « Eh oh, là, rendez-vous compte, il y en a plein qui sont partis en burn-out, ça a bougé. » Ah, oh, mais c'est des métiers de passion, tu te rends compte, oui, vous êtes investi, mais c'est normal, et on est conscient, mais ça va aller, n'importe où, on noie le poisson. Alors que c'est quand même normalement des responsables légaux, mais on sait, on n'interroge pas, et si on n'interroge pas à cet endroit-là aussi, on ne va pas beaucoup avancer, quoi.
On espère que le bouquin ici, faire et faire semblant, du coup, j'ai pas développé le titre, mais de toute façon, on n'a plus le temps. Ben, amène toutes ces réflexions là qu'on a un petit peu ébauchées, hein? Ébauchées,
esquissées.
Ensemble, voilà. Et c'est aux éditions
du Cerisier.
Voilà. Merci Pierre Lorquet.
Merci Graziella Manot.